vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, merci de suivre ce journal. Le conseil départemental de sécurité d'Avlit en réunion hier, cela fait suite à une bagarre rangée entre orpailleurs à suivre les conclusions avec le maire. Les prédicateurs islamiques, les responsables de l'université islamique de Saï et le CICR en colloque de deux jours à Niamey, la protection de la mission médicale dans les zones de sécurité au centre des discussions. La situation sécuritaire dans la région de Zender est plutôt calme en dépit de quelques actes isolés menés par des groupes de jeunes. Le gouverneur de la région, Issa Moussa, donne des précisions en partie magazine de ce journal. Hawa Momane au micro. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a procédé ce matin à l'inauguration de la station de traitement d'eau potable dénommée le projet Goudel 4, a annoncé la délégation de l'Union européenne au Niger dans un communiqué financé à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA par la coopération néerlandaise, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement. Ce projet permettra d'élargir l'approvisionnement en eau potable, d'améliorer la santé publique et de faire face à l'accroissement de la population, indique le communiqué. Ainsi, près de 16 000 foyers supplémentaires seront raccordés au réseau d'approvisionnement en eau et 170 nouveaux points d'accès à l'eau ont été construits dans le cadre de ce projet porteur, a conclu le communiqué. Mardi dernier, une bagarre rangée a opposé des orpailleurs dans la ville d'Avlit avec malheureusement mort d'homme. Hier, les autorités de la ville étaient en réunion en conseil départemental de sécurité pour circonscrire l'événement et éviter à l'avenir de telles situations. Abdrahmane Maouli, maire d'Avlit, fait la synthèse de la réunion au micro d'Ousmane Oumarou.
Cette bagarre a commencé entre deux orpailleurs. C'est l'un qui a pris le sable de l'autre, c'est-à-dire le sable à partir duquel on extrait de l'or. Le propriétaire l'a suivi jusqu'à chez lui, voulant récupérer son sable, et la bagarre s'est éclatée entre eux. Les amis de celui qui a pris le sable s'en sont pris à l'autre et l'ont blessé. Il a été transporté au centre de santé avant de succomber aux environs de 2h30. Ceux qui ont perdu un de leurs amis ont décidé de se faire justice et une autre bagarre s'est éclatée. Sur place, une personne est décédée et une autre blessée, qui a finalement rendu l'âme dans le centre de santé. Sur place, nous avons donné ordre aux forces de défense et de sécurité d'arrêter ceux qui sont impliqués dans cette affaire.
Ouverture ce matin à Niamey de la troisième édition du colloque régional sur la protection de la mission médicale selon le droit international humanitaire et le droit et la jurisprudence islamique. Une cinquantaine d'imams, prédicateurs, académiciens d'université prennent part à cet atelier de deux jours afin de discuter sur les attaques des centres de santé. Que dit l'islam sur ces pratiques? Professeur Jemal Bentaher, recteur de l'Université islamique du Niger, répond au micro de Salamatou Kadri.
L'islam condamne énergiquement tout acte de violence d'une manière générale. L'islam interdit formellement toute atteinte à une personne humaine, mais spécialement pour les personnes qui se consacrent à soigner les malheurs des uns et des autres. Le Coran est clair sur ce plan-là et les théologiens ont produit pas mal de textes qui confirment cette condamnation énergique de l'islam de ces actes de violence et de barbarie. Nous espérons tout d'abord engager un débat scientifique de haut niveau entre les différents chercheurs ici présents et à distance. Et on aimerait bien rendre ces résultats de recherche plus accessibles à tous les gens ici au Niger et ailleurs. Parce qu'il faut vraiment toucher tous les gens concernés dans le processus de protection, des soins et des centres hospitaliers.
Au Niger, ces derniers mois, l'on constate la montée de nouveaux types de violences dans la zone nord Tillabéri où des personnes civiles sont les principales cibles des hommes armés non identifiés, selon Ibrahim Yahaya de l'International Crisis Group ICG. Ceci constitue une nouvelle dynamique dans les conflits qui opposent des groupes armés à l'armée nationale. Il estime que l'État du Niger doit redoubler d'efforts pour éviter que la situation ne se détériore davantage. Ibrahim Yahaya, interrogé par Adama Dawachi.
Le conflit, nous avons constaté qu'il jusqu'à présent a essentiellement opposé des groupes armés à l'armée nationale. Mais que des civils soient pris à partie par un groupe dénote de nouvelles tendances dans le conflit. En ce qui concerne les caractères ethniques de ces violences, même s'il n'est pas totalement établi, Il est quand même redouté et soupçonné par pas mal d'acteurs locaux. Ces violences rappellent les types de violences qui ont ensanglanté nos voisins du Mali et du Burkina Faso, et qu'il va falloir redoubler plus de vigilance et d'efforts pour éviter que notre pays tombe dans ces pièges de violences dites intercommunautaires. Les autorités nigériennes ont une meilleure compréhension du risque que ce type de conflit peut peser, mais il est clair qu'ils ont besoin de redoubler d'efforts pour éviter que la situation ne se détériore davantage.
La population du département de Madarumfa, région de Maradi et frontalière du Nigeria, est actuellement désarmée face à des vols récurrents de son bétail par des bandits armés. Abdou Dan Neto, acteur de la société civile à Maradi, décrit la situation et interpelle l'État pour venir en aide à ces personnes pour reconstituer leur cheptel et leur éviter ainsi de tomber dans la pauvreté. Il est au micro de Mohamed Momman.
C'était des bandits qui viennent dans des villages. Il faut le ratissage de tous les animaux qu'il y a dans le village. Et il y a même des moments où ils prennent leur haut-parleur pour dire que tous celui qui possède quelque chose de bien, qu'ils le sortent avant qu'eux, ils ne le trouvent dans sa propre maison. Quelqu'un qui possède 200, 300 têtes de bétail, aujourd'hui, il n'a plus rien. Il a zéro tête de bétail. Donc, il faudrait que l'État pense à aider ces personnes-là. Parce que ces villageois-là ne vivent que de la culture et de l'élevage. Maintenant qu'ils n'ont pas eu à cultiver, parce que ces gens-là, ils ont empêché aux gens de cultiver pour avoir de quoi manger. Avec cet élevage-là, quand ils ont des cérémonies de mariage, cérémonies de baptême, tout ça là, ils prennent quelques animaux pour les vendre et subvenir à leurs besoins. Malheureusement, il n'y a ni la culture, il n'y a ni l'élevage, donc ces gens-là sont à zéro.
Le collectif de la société civile d'Avlit a fustigé la note intitulée « Relevé de décision de la Cominac » en date du 24 février 2021, dans laquelle la compagnie a défini les modalités de la prime de fermeture de l'entreprise prévue le 31 mars 2021, selon Ramar Elatoufet, secrétaire général du collectif de la société civile d'Arlit. Ce relevé de décision va attribuer aux agents sous contrat avec l'entreprise au nombre de 600 entre 20 à 60 millions de francs CFA, pendant que les agents sous-traitants au nombre de 800 vont seulement bénéficier de quelques petits avantages. Il est joint au téléphone par Gungu Mahaman Dantani.
Le 24 février, Cominac sortait une note intitulée « Relevé de décision » discutée entre la Cominac, le préfet d'Arlit et le maire d'Arlit, qui donne un certain nombre de choses minimes aux travailleurs sous-traitants qui sont 800. Pour les travailleurs directs, la Cominac a négocié avec le syndicat où ils ont trouvé un accord selon lequel les travailleurs directs, chacun va bénéficier d'une prime allant de 15 millions à 40 millions francs CFA, plus d'autres avantages concernant les sommes médicaux et toute la sécurité sociale pendant au moins 2 ans. Ce que nous déplorons sur ce document, c'est qu'il a été signé par le préfet et le maire. Or, le préfet et les maires ne sont pas habilités à signer de documents qui concernent une question de travailleurs avec leurs employeurs. Et nous avons écrit à la direction de Cominac pour lui dire que nous estimons que ce n'est pas avec le préfet ni avec le maire que le document doit être signé, c'est avec l'inspecteur du travail et les syndicats des travailleurs que le document doit être signé.
Le taux d'exécution du programme scolaire est assez satisfaisant dans le 2e arrondissement de Niamey, selon Seyni Modi Moussa, directeur départemental de l'enseignement secondaire. Le bilan a été dressé à l'occasion de la remise des bulletins scolaires du premier semestre en début du mois de mars 2021. On l'écoute au micro de Fantacham Soumeger.
Par rapport au taux d'exécution des programmes, nous pouvons dire qu'au collège, nous sommes à une moyenne de 50,56% et au lycée à une moyenne de 49,66%, en tout cas jusqu'à la date d'hier. Donc si on regarde un peu à l'intérieur, par niveau, par exemple au collège, en troisième on est jusqu'à 54,25%, en quatrième 50,5% et dans les sixième, cinquième pour une moyenne de 49% à peu près. Au lycée, si on regarde par exemple par niveau, en seconde nous avons autour de 46,19%, en première 47,98% et dans les terminales autour de 54,23%. En tout cas à la date d'aujourd'hui, nous pensons que le taux d'exécution est vraiment satisfaisant au regard de quelques suspensions qu'on a eues et de la logique où on est. Nous pensons que d'ici le mois de juin, les programmes seront exécutés à 100%.
Bientôt, la période des mangos au Niger à Gaya, c'est la consommation des mangos non mûrs que l'on remarque un peu partout dans la ville. Enfants et grands s'y adonnent. Pourtant, cette consommation a des effets négatifs sur la santé. Issoufou Aïchatou, nutritionniste à l'hôpital de Gaya, explique au micro de Fadel Alou.
Il y a les enfants qui consomment la mangue non mûre. Et la consommation de la mangue non mûre, elle est très dangereuse. Parce qu'elle peut causer des douleurs d'estomac, des troubles digestifs, des vomissements. Parce qu'il y a l'acide qui est contenu dans la mangue, ça qui provoque les troubles digestifs. L'acide qui est contenu dans la mangue qui n'est pas mûre peut causer des constipations, des vomissements, jusqu'à aller à la déshydratation. On perd toutes ses forces, on perd toutes les eaux grâce au vomissement. C'est dangereux en tout cas. Ça peut causer une intoxication alimentaire. Parce que les enfants préfèrent la consommer mélangée à d'autres aliments, comme de l'huile, des piments et autres. Donc ça peut vraiment causer une intoxication alimentaire. Donc même pour les grandes personnes, il faut éviter de consommer la mangue qui n'est pas mûre, vu les conséquences. Il faut laisser que la mangue soit mûre pour pouvoir la consommer.
Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends grande sœur, apparemment vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La région de Zander fait partie de ces régions du Niger où la situation sécuritaire n'est pas dégradée. Toutefois, l'on relève quelques actes isolés menés par certains groupes de jeunes dans les centres urbains. La situation est globalement calme, a indiqué le gouverneur de la région au studio Kalangou, Issa Moussa, le gouverneur de Zender, interrogé par notre reporter Tavnan Foudey Ahmed.
Monsieur le gouverneur, aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire au niveau de toute la région des Zender et au niveau de la ville des Zender en particulier?
De toutes les régions, la région de Zender est celle qui ne connaît pas les soubresauts aussi bien des jihadistes de l'autre côté, de Boko Haram ou des kidnappeurs. Nous remercions Dieu qui nous a épargnés de ces difficultés-là. C'est vrai que de temps en temps, que ce soit même dans les zones rurales et dans les zones urbaines, et particulièrement à Zender, nous enregistrons parfois certains actes qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Nous avons vu des jeunes qui s'organisent pour attaquer des structures de microfinance. Tout dernièrement, il y avait des jeunes qui se sont organisés pour aller attaquer une boutique où ils ont tué un jeune homme. Ça, ce sont des actes pour lesquels nous devrons donner une grande attention. Et c'est pourquoi nous avons engagé l'ensemble des FDS à travailler de concert pour faire en sorte que tous ces actes-là soient éradiqués.
Monsieur le gouverneur, récemment, les FDS au niveau de la région de Zander ont procédé à l'arrestation de groupes de jeunes entre 18 et 30 ans. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui amène ces jeunes à commettre ce genre d'actes?
Notre population, elle est en majorité très jeune. Et il se trouve que, en dépit des efforts que le gouvernement, en rapport avec les partenaires, sont en train de faire, il y a un certain nombre de jeunes qui butent à avoir des emplois. Ce sont ces genres de catégories de jeunes qui se livrent à ces genres de comportements. Mais pas seulement, parce que nous sommes surpris de voir qu'il y a des élèves parfois dans ce lot. Cela veut dire que il y a un phénomène pour lequel nous devrons pousser les investigations pour connaître quelles sont les raisons qui sont à l'origine. Si c'était des sans-emploi, c'est compréhensible. Mais lorsque des élèves rentrent là-dedans, il y a des raisons de réfléchir par rapport à cette situation.
Au niveau de chaque région, un conseiller régional de la jeunesse par rapport à ces problèmes. Quel est votre message à l'endroit du conseil régional de la jeunesse des Zander?
Le rôle du conseil régional de la jeunesse, c'est d'encadrer la jeunesse. Et je les incite à aller vers les jeunes pour leur parler de leur avenir. Et c'est ce travail-là que le conseil des jeunes doit faire et nous les incitons à aller dans ce sens.
Et c'est la fin du journal de ce 18 mars. À suivre le forum de ce soir, hygiène et assainissement dans la ville de Gaya. C'est dans une présentation de Fadel Alou.